Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que se passe-t-il dans une société extrêmement complexe, extrêmement variée comme l'Empire ottoman au XIXe siècle face à une Europe conquérante ? Comment l'État-nation s'avère-t-il d'une simplicité qui n'arrive pas à comprendre cet empire multiple et pluriel, s'interroge l'historien Etem Eldem. Pourquoi rappeler, dans le contexte de l'instrumentalisation de l'histoire, la nécessité et la force des questionnements face aux réductions politiques ? Nous retrouvons aujourd'hui Etem Eldem, professeur à l'université de Boğaziçi, l'université du Bosphore, titulaire pour 5 ans de la chaire Histoire turque et ottomane au Collège de France. Il poursuit cette semaine la série inaugurée en 2018 sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». L'an passé, il s'est attaché au changement sensible du rapport de force entre le vieil empire ottoman et l'Europe au tournant des 18e-19e siècles. L'expédition d'Égypte en 1798 avait marqué de ce point de vue un traumatisme pour les Ottomans qui avaient alors perdu ce joyau de l'empire pour entrer dans le jeu complexe des puissances européennes. Les Ottomans ont commencé à perdre prise, avait souligné Etem Eldem. Face à cette situation nouvelle, ils avaient dû revoir leur politique envers un Occident de plus en plus envahissant et menaçant, mais aussi de plus en plus attrayant et tentant par ses succès. Etem Eldem reprend donc son analyse au moment du tournant des années 1820-1830, au moment des réformes étatiques de la Sublime Porte. Il nous propose un stimulant rappel de sa série précédente et nous introduit dans son laboratoire d'historien au Collège de France. Le journaliste Marc Semo lui a consacré un beau portrait dans Le Monde début janvier 2018, au moment où Etem Eldem débutait sa première série de cours au Collège de France. Marc Semo explique qu'à 5 ans déjà, Etem Eldem parlait l'ottoman, turc ancien de l'empire défunt, mêlant mots perses et iraniens en caractères arabes, que Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République, avait balayé en 1928 en imposant l'alphabet latin et de profondes transformations du vocabulaire. Avec un père diplomate de bonne famille, né avant la Première Guerre mondiale, le petit garçon était à bonne école. Dès lors, cette langue déchiffrée comme une langue morte par les historiens devient pour Etem Eldem bien vivante, son père lui faisant des dictées. Dans ce même article, Etem Eldem narre l'anecdote emblématique d'un Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président islamo-conservateur de la Turquie, qui avait un moment voulu rendre obligatoire l'étude de l'ottoman dans les lycées religieux afin que les enfants puissent enfin lire les lettres de leurs aïeux selon sa formule. Or, raconte Etem Eldem, l'illettrisme était tel dans l'Empire que de telles missives étaient bien rares. La connaissance de l'ottoman ne sert finalement qu'aux historiens pour la consultation des archives. Comme l'an passé, Etem Eldem revient sur les chausse-trappes qui guettent l'historien de l'Empire ottoman. Il avait déjà évoqué les difficultés de son métier face au rapport frénétique des Turcs à l'histoire, le domaine étant vicié, selon ses mots, par l'emprise du politique et de l'idéologique, que ce soit la vision kémaliste déformante au XXe siècle ou que ce soit l'islamo-nationalisme du pouvoir au XXIe siècle. Marc Semo indique qu'Etem Eldem est un intellectuel qui aime bousculer les idées reçues, alors justement, comment l'historien s'attache-t-il à les déconstruire ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 janvier 2019 pour le cours d'Etem Eldem, aujourd'hui, reprise et rappel.
Nous allons parler des années 1820, mais je pense qu'il est utile, du moins pour moi, de nous rafraîchir la mémoire, de faire un petit récapitulatif de ce que nous avons fait l'année dernière, pour rappeler certains points qui me paraissent importants d'un point de vue purement historique, pour avoir un suivi, parce qu'après tout, je n'attends pas de tout un chacun d'être un spécialiste de l'histoire ottomane, donc un peu de chronologie, un peu de contextualisation ne peut pas faire de mal. mais aussi pour insister sur certains points de méthode, certains points théoriques qui me paraissent importants et qui, en gros, nous suivront tout au cours de ce cours, tout au cours de l'année et les trois années qui suivent, je l'espère. Puisque nous travaillons dans la continuité, et cette continuité, elle est évidemment procurée par une sorte de chronologie qui régit la manière dont j'ai pensé ce cours. Je n'ai peut-être pas besoin de vous rappeler que le thème central est celui de l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Et nous avons commencé avec le XVIIIe siècle en nous posant des questions sur la nature et l'influence des relations entre les Ottomans et les Européens et les Occidentaux au XVIIIe siècle. Et à la fin de cette série de cours, j'espère que nous arriverons au XXe siècle. Pour ne rien vous cacher, l'année dernière, lorsque j'avais commencé, j'avais préparé mon premier cours pour en arriver au moins aux années 1850. Quelle naïveté ! Nous n'en sommes arrivés qu'à 1820, à la suite de 6 séances d'une heure et demie chacune. Mais il y a une raison pour cela, c'est que j'ai épousé une certaine manière de faire, et j'en parlerai dans un instant, qui consiste à me faufiler, à broder entre le général et le particulier, et d'essayer autant que possible d'étayer mes arguments par des cas particuliers, des études de cas qui illustrent et qui permettent de réfléchir un peu dans un contexte beaucoup plus précis, en partageant des documents, de réfléchir à certaines questions qui nous sont posées par le récit à long terme de cette histoire ottomano-occidentale, ottomano-européenne. Donc, pour rappeler un peu le contexte de ce que nous avons fait l'année dernière, le contexte est donc celui de l'Empire ottoman et de l'Occident, mais avec, bien sûr, l'argument que ces relations partent non pas de néant, mais partent de bien peu, ou du moins qualitativement de quelque chose qui reste assez superficiel et qui, au fur et à mesure, notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle, atteint un niveau, une intensité et un impact qui sont excessivement importants. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai ajouté au titre qui, en fait, étant historien de l'Empire ottoman, aurait dû s'en tenir à l'Empire ottoman et l'Occident, j'ai ajouté la Turquie. Parce que la Turquie, déjà, c'est l'Empire ottoman pour la plupart des gens du XIXe siècle. Vous savez, comme moi, que l'usage du terme « turc » pour décrire, alors, soit parfois des musulmans, soit des ottomans, est une pratique occidentale qui remonte pratiquement à la fin du Moyen Âge. Donc déjà, les Byzantins et les Italiens ont utilisé ce terme pour décrire des gens qui n'avaient de Turc qu'une vague origine ethnique et surtout une appartenance linguistique. Mais au XIXe siècle, tout le monde, y compris les Ottomans, lorsqu'ils pratiquent la langue internationale de l'époque, qui est le français, utilise le terme de Turquie pour décrire l'Empire ottoman. D'autant plus que, et je pense en avoir parlé l'année dernière, les Ottomans, du moins jusqu'au XIXe siècle, n'ont pas vraiment un concept d'empire. Ils parlent d'État, d'Evlet. C'est l'État, c'est aussi la fortune, donc il y a une ambiguïté là qui est assez intéressante. Mais cet État, il n'est jamais qualifié vraiment d'Ottoman avant le XIXe siècle, lorsque les Ottomans, sous l'influence justement de cette culture occidentale et de la culture politique qui leur est peu à peu imposée, mais aussi suggérée par l'Occident, vont commencer à parler de leur propre devlet en tant que Devlet Aliye Osmaniye, ce qui se traduit très joliment par l'État sublime ottoman. Et c'est là que on retient donc le sublime, puisque c'est quand même un empire, c'est un empire qui se concentre sur le pouvoir d'un un individu à qui l'on attribue une paternité, en quelque sorte, de l'État, mais que l'on qualifie de plus en plus d'ottoman, alors que, à l'époque, on n'en ressentait pas le besoin pour la bonne et simple raison qu'on ne pensait pas en termes territoriaux. Et que un empire, c'est un peu comme la Chine, un empire se suffit à lui-même et par conséquent n'a pas besoin de se définir par distinction des autres. Quand on dit l'État sublime, ça suffit à décrire ce qui est pour tous les sujets du sultan, ou du moins pour l'administration telle qu'elle se conçoit, la manière dont les sujets sont censés voir l'État, qui suffit donc à définir, à décrire, à identifier l'Empire. Mais, ainsi que je vous le disais, les relations entre l'Empire ottoman et l'Occident ne font que s'intensifier au fur et à mesure. Et là, il y a une question de base qui est celle d'essayer d'éviter, et ça aussi, je pense que je l'avais expliqué la dernière fois, ce qu'on appelle la téléologie, donc de télos en grec, qui veut dire la fin, c'est-à-dire le fait de construire ces arguments historiques avec une connaissance et avec le désir, l'objectif d'atteindre la fin. C'est-à-dire de justifier la fin de ce récit, puisque toute histoire est récit, et que par conséquent, on veut avoir une sorte d'homogénéité, de cohérence dans le récit, et évidemment, c'est humain, on a toujours, quand on a vu la fin du film, et que l'on raconte le film, on ne peut pas se dessaisir, en quelque sorte, de la connaissance que l'on a de ce que l'on pense être la fin. Or, la fin, ça n'est qu'une possibilité, qu'une probabilité parmi tant d'autres. Et donc la téléologie, c'est cette déformation humaine qui est pratiquement inévitable, mais que la méthode peut apprendre à circonvenir, cette déformation qui veut que l'on construise son argument historique à rebours, en quelque sorte, non pas avec l'ignorance et la curiosité de ce qui est à venir, mais plutôt avec la connaissance de ce que l'on pense être la fin logique de l'histoire. Et par conséquent, dans le cas particulier qui nous intéresse, le problème de base est que l'Empire ottoman, l'occidentalisation telle qu'on la voit au XIXe siècle, est un phénomène tellement prenant, tellement présent, tellement imposant, que l'on finit par chercher des arguments en amont qui vont dans le sens, qui vont nourrir une sorte de suite logique de phénomènes, d'événements qui vont vers l'occidentalisation, vers une sorte de réussite d'un projet civilisationnel. Or, le problème, c'est que le XVIIIe siècle ne s'explique pas de cette manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le XVIIIe siècle à une sorte de statut de préambule, de prélude au XIXe siècle, en allant à la cueillette, pratiquement, des événements, des phénomènes que l'on pense aller dans le sens d'une modernisation, d'une occidentalisation telle qu'on les verra au XIXe siècle. Au contraire, il y a énormément de phénomènes qui vont dans un sens tout à fait contraire, ne serait-ce que la curiosité qu'ont les Ottomans du monde oriental, la Perse, l'Iran, l'Inde, au XVIIIe siècle, dans la première moitié du XVIIIe siècle, à une époque où on leur attribue des velléités d'occidentalisation en se fondant sur des cas très particuliers, des événements très particuliers, tels l'ambassade que j'ai déjà citée, l'ambassade de Yelmesekiz Mehmet Çelebi en France en 1720, à qui l'on attribue une sorte de paternité de l'occidentalisation par l'émulation de certaines formes architecturales, industrielles, l'imprimerie, dans les années 1720-1730. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des phénomènes qui convergent, vous en avez qui divergent, et par conséquent, le travail de l'historien est d'éviter justement un récit linéaire, univoque, et de voir où justement la complexité se situe et comment la réalité historique est en fait bien plus compliquée, bien plus complexe et bien plus intéressante que la plupart des récits un peu comprimés et un peu simplistes ne le suggèrent. Autre problème que j'ai évoqué l'année dernière, c'est celui de l'actualité. Le fait que la Turquie, en ce moment, est en train de passer par ce que je qualifierais d'un mauvais moment, pour utiliser un euphémisme. Et ce mauvais moment, il est fait de deux phénomènes. Du côté turc, la montée de l'autoritarisme, mais surtout du nationalisme, enfin la remontée, puisque le nationalisme n'a jamais été vraiment absent de la politique turque, la montée du nationalisme et sa combinaison, et c'est là que le phénomène est quelque peu nouveau, avec une insistance, un accent sur le fait religieux, sur l'islam, sur l'identité religieuse de la population turque, fait que le gouvernement, et au sein du gouvernement, le grand maître de la politique turque, c'est-à-dire Erdogan, utilise très fréquemment, abuse souvent de l'histoire pour promouvoir une certaine vision de leur politique. Ce qui fait que l'historien se retrouve un peu en porte-à-faux, puisqu'il est amené à s'occuper de choses qui ne devraient pas être vraiment de son ressort. Un des aspects, c'est bien sûr de prendre la défense de ce que je considère être ma discipline, l'histoire, et par conséquent, relever tous ces abus qui sont faits du fait historique, du récit historique, par des velléités politiques. Encore une fois, ça n'est guère une nouveauté en Turquie, puisque depuis la création de la République, la Turquie s'est nourrie d'histoire, ou du moins d'histoire réécrite à des fins politiques pour définir, justifier le fait politique et pour former une nation cohérente et essayer d'effacer les différences, les disparités existant d'un point de vue ethnique, religieux, culturel au sein de cette nation. Ça, dans les années 30, on le sait bien, c'était un peu l'obsession de tous les États-nations, quelque chose qu'ils ont hérité aux premiers exemples de nationalisation, de croissance de l'État-nation au XIXe siècle, c'est cette obsession de se créer une histoire nationale afin de nourrir le concept même de la nation. Dans le cas turc kémaliste, dans les années 30, l'obsession était pour essayer de contourner, d'éviter l'Empire ottoman afin de se débarrasser de ce qui ne pouvait pas vraiment se détacher facilement de la perception qu'on avait de l'histoire ottomane, c'est-à-dire l'islam. Et par conséquent, pour laïciser le pays, pour laïciser le récit historique sur lequel reposait l'identité turque, le kémalisme est allé chercher ailleurs, en fait avant, est allé chercher dans la géographie anatolienne, puisque c'était le gros du territoire, d'autres sources d'identité et ça je vous en ai déjà parlé, jusqu'à parler des Hittites comme des proto-turcs, tous les Hittites étaient turcs, etc. Ce qui devrait vous rappeler le phénomène qui aujourd'hui est quand même un peu passé, mais toujours un peu présent, celui de nos ancêtres les Gaulois, pour définir encore une fois la continuité de la nation dans le temps. Donc de ce côté, évidemment, l'historien qui se penche sur l'Empire ottoman se doit de défendre son territoire contre ses abus politiques. Mais il y a une seconde dimension qui est un peu plus dérangeante, c'est celle justement de la politisation de l'histoire et le fait que par conséquent l'historien, au-delà de la simple défense de sa discipline, de son territoire académique, scientifique, etc., est poussé de plus en plus à essayer d'interpréter le présent avec les clés fournies par le passé. Et ça, c'est très dangereux. J'en reparlerai dans un moment. C'est très dangereux parce que les parallèles établis entre une certaine période et le présent, entre des périodes qui sont séparées par des siècles, parfois, ou ne serait-ce que des décennies, c'est un exercice extrêmement dangereux qui pêche par le risque qu'il y a de prendre des ressemblances pour des continuités, de prendre des corrélations pour des causalités, problèmes typiques de l'histoire, mais qui sont amplifiés par cette pression politique que ressentent les historiens qui sont en même temps citoyens et qui, par conséquent, ont une vision politique de ce qui se passe dans leur pays ou au-delà de leur pays et se trouvent happés, en quelque sorte, par cette logique un peu malsaine de la comparaison, de l'utilisation de l'histoire pour expliquer le présent. J'en reparlerai avec des cas particuliers. Enfin, savoir qu'un autre aspect, une sorte de phénomène de miroir, concerne les visions occidentales, ou du moins externes, exogènes, de l'histoire ottomane, qui, elles, sont teintées non pas par le nationalisme, comme c'est dans le cas de la Turquie, mais par une idéologie qui est extrêmement puissante et qui survit, malgré toutes les critiques qui en ont été faites, celle de l'orientalisme. C'est-à-dire cette tendance à vouloir simplifier le phénomène, l'identité, l'histoire de l'Orient en lui retirant en quelque sorte la dynamique que l'on considère être en quelque sorte le monopole exclusif de l'Occident. L'Occident fait mouvoir l'histoire. L'Occident est à l'origine de toutes les grandes transformations que l'on associe avec l'évolution du temps, l'évolution de l'histoire. Par conséquent, ce qui reste à l'extérieur de l'Occident est en quelque sorte anhistorique, manque de présence historique, manque de dynamiques historiques, est incapable de se mouvoir dans l'histoire, si ce n'est par le biais d'une influence externe qui, elle, est généralement occidentale. Donc cette vision d'un Orient figé dans le passé, incapable d'en sortir, se répétant sans cesse, c'est quelque chose qui modifie énormément et souille en quelque sorte la capacité de l'historien à attribuer à un phénomène historique non européen une autonomie comparable à celle de l'Occident. Encore une fois, l'orientalisme a pris quand même des coups très durs, notamment avec la publication en 1978 de l'orientalisme d'Edward Said, mais il a quand même la vie assez dure, il arrive quand même en Turquie comme en dehors de la Turquie, à dominer parfois le discours par cette tendance à simplifier, excessivement simplifier, trivialiser en quelque sorte la dimension historique du changement, des transformations des sociétés et des formes politiques en Orient. Donc le problème pour l'historien, c'est de naviguer en quelque sorte dans ces eaux troubles qui sont caractérisées par ces influences idéologiques qui ne sont pas vraiment scientifiques, qui sont extrêmement fortes et qui le poussent soit à tomber dans les pièges tendus par ces idéologies ou alors à perdre un peu sa concentration sur la matière historique en essayant de gérer ces problèmes, en essayant de répondre sans cesse, de réagir à ces problèmes d'une nature idéologique. Comment faire ? Comment est-ce que je propose d'éviter ces pièges ? En gros, en naviguant à deux vitesses, si vous voulez. Et c'est là que je reprends un peu ce que j'évoquais au début de ma présentation. Je reprends l'idée de se faufiler entre une grande histoire, un récit général et des cas particuliers, et surtout de s'interroger sur certains cas pour essayer de voir, pour essayer d'éviter de tomber dans des platitudes ou alors dans des stéréotypes et des clichés qui sont extrêmement nocifs au développement d'une connaissance et d'une maîtrise de la matière historique. Donc, il faut à la fois éviter les pièges du nationalisme, mais il faut aussi les expliquer, puisque l'orientalisme n'est pas simplement une idéologie qui nuit à la formulation de la théorie historique, c'est aussi un phénomène historique en lui-même. Et par conséquent, la naissance de l'orientalisme, le développement de l'orientalisme, l'interagissement entre l'orientalisme et la politique est quelque chose qui enrichit notre connaissance et la rend un peu plus sophistiquée, un peu plus critique du récit historique. C'est pareil pour l'orientalisme, donc nationalisme et orientalisme sont en quelque sorte les deux mamelles de l'histoire viciée qui domine les 19e et 20e siècles, mais on ne peut pas non plus les écarter complètement, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut donc essayer de gérer ce problème en se penchant dessus et en essayant d'en extirper une leçon qui pourrait contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire. Donc, pour ce faire, je voudrais évoquer quelques principes qui me paraissent importants pour essayer d'encadrer, en quelque sorte, la manière dont nous parlerons et dont nous discuterons de l'histoire. D'abord, le fait que, et c'est une conviction, que le travail de l'historien, de l'historienne, ne se définit pas par une détermination à répondre à des questions, mais plutôt à en poser. Je le disais, je crois, à la fin de ma leçon inaugurale, l'essentiel n'est pas vraiment de répondre à des questions. C'est vraiment d'en poser et d'en poser des bonnes. Et ça, c'est un exercice que l'on ne fait pas assez pour la bonne et simple raison que l'on a tendance à pencher pour des questions qui peuvent être résolues, auxquelles on peut trouver des réponses plus ou moins concrètes. Or, je le dis toujours à mes étudiants, si vous avez un degré de certitude qui vous permet de répondre avec précision à une question, c'est que la question était bête. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est que la question était simple et qu'elle pouvait, par conséquent, provoquer une réponse qui pouvait se réduire à un oui, à un non, à une date, à quelque chose de concret. Alors, bien sûr, c'est inévitablement nécessaire. La chronologie, après tout, c'est bête et méchant, mais c'est utile. Mais ça n'est pas de l'histoire. Le fait de pouvoir mettre une date sur un événement, même si on arrive à prouver que la date de tel événement, en fait, était tout autre que celle que l'on pensait, ça finit par être une correction d'une erreur basique, une erreur extrêmement simple, qui n'apporte pas vraiment grand-chose à notre meilleure compréhension des phénomènes qui font le tissu, l'étoffe de l'histoire. Donc, je ne dis pas ça pour renier la chronologie, pour renier la géographie, pour renier la précision, mais simplement pour dire que ce sont deux choses tout à fait différentes. D'une part, vous avez en quelque sorte la technique, les technologies, la base documentaire de la connaissance historique, qu'elle soit chronologique, qu'elle soit ce que vous voulez, mais de l'autre côté, vous avez le questionnement. Et le questionnement, plus la question est bonne, plus la réponse sera difficile ou même absente. Et par conséquent, il ne faut pas se décourager, bien au contraire, il faut essayer autant que possible de pousser l'historien, pousser l'étudiant d'histoire à poser des questions et à essayer de résoudre la question, mais sans avoir cette illusion fort naïve et en fait assez nocive de penser que l'on puisse y apporter une réponse précise, unique. Le propre de l'histoire, c'est justement que non, la complexité, les strates de la vérité historique, du phénomène historique sont telles qu'il est pratiquement impossible de réduire l'explication d'un phénomène à un phénomène, à un événement ou à un agent, une personne, ce que l'histoire au XIXe siècle aimait pourtant beaucoup faire. Donc, la certitude, si vous voulez, pour moi, est l'apanage d'une perception très dogmatique, doctrinaire de l'histoire, une illusion de scientisme dans une discipline qui ne devrait pas revendiquer le même genre de rigueur que les sciences dites dures. Cela ne veut pas dire, et nous en reparlerons, que la méthode ne peut pas être scientifique. Ce sont deux choses différentes. La méthode scientifique critique, elle existe en histoire, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans des conditions de laboratoire, nous ne sommes pas dans une situation où il nous est donné de tester, pour avoir des résultats concrets, de tester les données historiques. C'est beaucoup plus complexe, et encore une fois, j'insiste sur cela, c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est ce qui fait le charme de l'histoire, c'est ce qui fait que l'histoire peut être amusante, peut être intéressante et amusante. Pour ce qui est du phénomène politique, je donnerai un exemple qui va dans le sens de ces deux arguments. J'ai récemment publié dans une revue américaine, une revue qui s'appelle The Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, donc c'est une revue entre guillemets scientifique qui traite d'histoire turque et ottomane, un peu comme ma chaire. J'ai publié un texte que j'ai intitulé « Sultan Abdulhamid II, Founding Father of the Turkish State ?» Point d'interrogation. Soit en français, le sultan Abdulhamid II, père fondateur de l'État turc, point d'interrogation. Alors c'est un essai, ce n'est pas vraiment un article, c'est plutôt un essai avec très peu de notes en bas de page, ce qui le rend plus aisé à lire, mais c'est un essai et par conséquent déjà il y a une certaine liberté dans ce format qui m'a permis de pousser le bouchon, si vous voulez, en évoquant quelque chose qui était quand même assez dangereux, puisque associer le sultan Abdulhamid II, souverain de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, à la situation présente de l'État turc, c'était faire exactement ce que je critiquais, c'est-à-dire d'utiliser des comparaisons à travers les décennies et les siècles pour essayer d'expliquer le présent par le passé. C'était non pas, comme je vous le disais, un article de fond, un article de recherche, mais plutôt un essai. C'était en fait la transcription d'une conférence inaugurale que j'avais donnée lors d'un colloque qui s'est tenu en novembre aux États-Unis l'année précédente sur le thème de la censure et de la liberté de la presse sous Abdulhamid et sous Erdogan. Donc déjà, le colloque flirtait avec cette idée que l'on pouvait établir une comparaison entre la situation actuelle, dont on se plaint tellement, et celle que tout historien de l'Empire ottoman ou tout historien de la dernière période de l'Empire ottoman reconnaîtra comme étant la plus sévèrement autocratique et la plus restrictive en matière de liberté de la modernité ottomane. C'était tentant, c'était très politique, et par conséquent, j'ai fait ce que je vous disais il y a un instant, j'ai pris le taureau par les cornes, et je suis allé tout de go dans la direction de voir si l'on pouvait vraiment établir un tel parallèle entre la fin du 19e et le début du 21e siècle. Donc, c'est un titre qui est dangereusement simpliste, et un historique, puisque, encore une fois, il prenait le pli d'une comparaison que j'aurais jugée extrêmement dangereuse si un étudiant me l'avait présentée comme un sujet de thèse. Mais je défendrai quand même ce titre, après tout, si je l'ai publié, j'ai plutôt intérêt à le défendre, mais je le défendrai honnêtement par le point d'interrogation. C'est-à-dire que ce qui compte vraiment, c'est de terminer cette phrase par un point d'interrogation, ce qui est une invitation à l'interrogation, une invitation à la discussion, une sorte de reconnaissance du fait qu'il y a là une sorte de raccourci qui pêche par les dangers de l'idéologie, du politique, etc., mais qui invite quand même ceux qui s'intéressent à la Turquie d'une part et à l'histoire ottomane de l'autre, de s'interroger sur la possibilité ou non et la manière dont on pourrait essayer de voir si ce que l'on observe aujourd'hui est un phénomène qui s'inscrit dans une certaine continuité, qui a des précédents qui peuvent être assez profondément ancrés pour justifier cette continuité, ou sinon, s'il s'agit vraiment d'une sorte d'accident, une sorte de ressemblance qui n'a pas vraiment de sens profond et qui devrait plutôt s'inscrire dans, disons, l'air du temps. Puisque, il faut le reconnaître, c'est que, en ce moment, partout dans le monde, on voit un phénomène assez similaire d'un durcissement des politiques de l'État, une sorte de glissement vers la droite, une sorte de recours au populisme qui surprend ceux de ma génération qui, après la chute du mur de Berlin en 1990, étaient persuadés que l'État-nation battait de l'aile et que, en gros, une sorte de démocratie libérale allait forcément s'implanter dans le monde libre ou ce qui restait du monde libre et que, par conséquent, on allait vers des printemps beaucoup plus prometteurs. Or, nous le voyons en Europe, nous le voyons en Hongrie, en Pologne, la Russie, encore une fois, on est tenté de parler de continuité entre la Russie impériale et la Russie soviétique et la Russie poutinienne. On le voit au Trumpistan, on le voit au Brésil, on le voit un peu partout. Donc, le problème est justement ce que j'évoquais, c'est-à-dire que voyant que la Turquie se durcit, que la Turquie devient de plus en plus autoritaire, est-ce que nous allons lier ça à une sorte de Sonderweg, un chemin à part, un chemin spécial qui définit la turcité, qui définit l'historicité turque, et par conséquent tomber ou risquer de tomber dans le piège d'une sorte d'essentialisme un peu orientaliste, les Turcs sont méchants, les Turcs sont autoritaires, les Turcs sont tout ce que nous savons qu'ils sont. Ou alors, est-ce que nous allons essayer d'être un peu plus critiques et nous poser la question, dans sa propre période, d'une comparaison de la Turquie avec d'autres cas qui n'ont apparemment aucun rapport avec un certain parcours que l'orientalisme aurait attribué à la Turquie. Donc voilà un exemple typique, si vous voulez, d'un questionnement qui est nécessaire parce que, justement, c'est le propre d'une histoire dogmatique ou doctrinaire que d'insister sur un scénario sans se pencher sur d'autres possibilités, sur d'autres manières de voir le développement d'un certain phénomène politique, d'une certaine agencement politique. Et c'est justement là que la question se pose. Donc, encore une fois, même si, et ça je le reconnais, en gros, mon article allait dans le sens d'une continuité que je voyais non pas comme une sorte de bond extraordinaire d'un exceptionnalisme à un autre, c'est-à-dire d'Abdülhamid à Erdogan, mais plutôt comme une continuité d'Abdülhamid aux jeunes Turcs, des jeunes Turcs aux unionistes, des unionistes aux kémalistes, des kémalistes à l'intervention ou à l'interventionnisme de l'armée dans la tradition post-kémaliste, et ensuite à Erdogan. Donc j'y voyais quelque chose qui est en puissance une particularité turque, une particularité d'une certaine politique, d'une certaine culture politique dont les racines seraient essentiellement ottomanes ou turques. Mais encore une fois, en mettant mon petit point d'interrogation à la fin, je suggère quand même que c'est là un débat à ouvrir et que c'est là quelque chose qu'il faut discuter afin d'essayer de comprendre l'histoire, de comprendre la complexité justement de ces relations extrêmement sophistiquées dont sont faits les récits historiques.
Merhaba ey mehteram.
Merhaba. Mehterbaşı.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Etem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830, aujourd'hui, reprise et rappel.
Autre principe de base pour le travail historique que je présente ici, c'est ce que je disais entre l'équilibre d'un discours entre guillemets généraliste avec des repères, des garde-fous chronologiques, une sorte de récit qui fait sens, en quelque sorte, que l'on arrive à percevoir, à comprendre, et des digressions, des cas d'études qui se penchent sur tel ou tel phénomène, telle ou telle époque, tel ou tel événement, avec beaucoup plus de précision, et souvent allant à contre-courant de ce que dit le grand récit, le récit continu. Et ceux d'entre vous qui m'ont fait l'honneur d'assister à mon cours l'année dernière se souviendront peut-être que j'ai tendance à alterner entre le registre général et des cas particuliers. Je me perds volontiers dans des digressions, ou alors je prends des tangentes, des chemins détournés pour essayer de parler de quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus pointu, mais qui, à long terme ou à moyen terme, peut se réinsérer, peut venir nourrir le discours plus généraliste qui, en gros, délimite le contexte général, le cadre général de mon cours. Et je pense que ceci est d'abord quelque chose qui est, d'un point de vue purement didactique, intéressant, notamment dans cette situation qui est quand même exceptionnelle. Le Collège de France, c'est particulier. Ça n'est pas une université. C'est quelque chose où, et ça je reconnais que c'est extrêmement intéressant pour le professeur, j'ai en face de moi, à la différence de ce que j'ai à Istanbul, des gens qui viennent ici sans aucune obligation, sans qu'on leur torde le bras. Ils viennent ici parce que ça les intéresse, parce que ça les amuse, peu importe, c'est un choix. C'est un choix, mais cela veut dire aussi que le profil du Collège de France, du public du Collège de France, est un profil très complexe. Je ne saurais jamais qui d'entre vous a vraiment une connaissance de l'Empire ottoman qui lui permette de suivre, sans que je me lance dans des explications un peu plus fournies, certains des événements ou des phénomènes que j'évoque. Donc le défi, si vous voulez, pour moi, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de pouvoir vous donner des informations qui sont assez générales pour vous situer dans un domaine, une période ou un contexte qui ne vous est pas forcément familier, mais à la fois de vous donner une idée, de vous pousser dans la direction d'une recherche originale, quelque chose qui appartient justement à la mission du Collège de France, puisque, encore une fois, le Collège de France, ça n'est pas simplement des conférences généralistes sur un sujet que le professeur maîtrise. Le professeur est invité à partager sa recherche. D'ailleurs, c'est l'une des devises que j'apprécie le plus du Collège de France, celle de donner une idée de la recherche qui s'y fait. Donner une idée de comment la recherche se forme, ce que le professeur fait vraiment, non pas lui imposer une sorte de mission de synthèse et par conséquent de vulgarisation, si vous voulez, de son sujet, mais de présenter, de partager avec ce public des éléments de recherche qui sont originaux et qui appartiennent à son travail de chercheur et dont certains ne sont pas conclus, ne sont pas assez mûrs pour être publiés et font partie, par conséquent, de ses propres quêtes. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est ce qu'il y a de plus enthousiasmant, puisque raconter une histoire, c'est bien gentil, mais discuter de quelque chose et évoquer des hésitations, des doutes et essayer de faire voir un peu ce qui se passe en coulisses, ce à quoi je pense et ce que je pense faire dans un futur plus ou moins proche ou lointain, ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et c'est là vraiment que le défi est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand, mais beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant pour le professeur. Et encore une fois, un petit rappel de l'année dernière où, à un moment, je suis parti sur une digression concernant, certains s'en souviendront peut-être, d'ailleurs je trouve que c'est quand même un article assez amusant que j'avais rédigé, sur la couleur du cheval blanc de Franché d'Espéret. Alors, bien sûr, c'est amusant, encore une fois, mais c'est très intéressant parce que grâce à cet article, ou en présentant cet article, j'ai pu vous parler d'un phénomène extrêmement concret et qui, pour notre discipline, est excessivement important, c'est-à-dire de savoir qu'il est risqué, souvent, de bâtir ces théories ou ces hypothèses sur la littérature existante en imaginant que tout ce qu'on y trouve est exact. En plus, et là, vraiment, c'est une confirmation de ce que je disais au début, la couleur d'un cheval, c'est bête, c'est concret. On ne peut pas se tromper. Enfin, il y a probablement des... je ne suis pas un spécialiste de la culture hippique. Il y a des chevaux bais, etc. Bon, mais en gros, blanc, noir, bon, il y a quelques couleurs, et on peut plus ou moins dire qu'un cheval est blanc ou qu'il ne l'est pas. Donc, encore une fois, il n'y a pas là une histoire excessivement intéressante. Et pourtant, puisque je vous rappelle que le fin mot de l'histoire, c'est que le cheval blanc ne l'était pas, et que toutes les sources, tous les livres publiés depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, évoquant cette entrée triomphale du général Franchet d'Espéré à Constantinople en 1919, toutes ces sources parlaient d'un cheval blanc. Et ce qui était intéressant, c'était d'essayer de déconstruire la manière dont ce mythe s'était construit. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça n'est pas la couleur du cheval, mais c'est pourquoi ce cheval était devenu blanc. Et je ne reprendrai pas l'histoire, mais on y découvrait un phénomène extrêmement intéressant qui était lié justement au nationalisme turc et à l'invention d'une légende qui allait dans le sens d'une victimisation suite à l'occupation de Constantinople par les Alliés en 1919. Et ça, c'est quelque chose, c'est une forme intangible, si vous voulez, qui vous permet d'analyser un phénomène que vous savez être nocif à votre discipline, mais qui en lui-même est excessivement intéressant quand il s'agit d'essayer de le comprendre, de le situer dans un contexte intellectuel, dans un contexte historique. Ça n'est pas le seul. J'avais fait, vous vous souviendrez, toute une présentation sur le plagiat d'un auteur ottoman au début du XXe siècle. J'étais tout fier, je le suis encore d'ailleurs, d'avoir découvert que Şahnizadeh Ataullah Efendi, bon, Şahnizadeh pour les intimes, avait en gros plagié l'article « Histoire » de Voltaire pour s'en servir et en faire une introduction à son histoire. Mais ce qui était intéressant, ça n'était pas le plagiat lui-même, ça aussi c'est intéressant, puisque ça s'inscrit dans l'inspiration ou l'admiration de l'Occident, mais ce qui était intéressant, c'était de voir ce qu'il en avait fait, qu'il l'avait complètement modifié de manière à le rendre compatible avec l'idéologie dominante de l'époque, au point de recevoir les félicitations de Mahmoud II, qui, on le sait, n'était pas un grand admirateur de Voltaire, pour la bonne et simple raison qu'il ne l'avait jamais lu, mais surtout qu'il savait qu'il représentait le déisme, il représentait la révolution, il représentait toutes sortes d'idées qui étaient jugées extrêmement dangereuses du point de vue de la stabilité de n'importe quel régime, et en particulier du régime ottoman. Et là aussi, ce cas particulier, qui encore une fois est une goutte dans un océan de données historiques, permettait de parler de manière assez précise des mentalités d'une certaine classe politique ou intellectuelle, de la manière dont il voit l'usage qu'ils pouvaient faire d'un document qu'ils avaient pompé, qu'ils avaient cueilli en quelque sorte chez les Occidentaux. Là, ce sont des cas typiques de produits déjà finis que je vous ai présentés, mais ce qui rend la chose intéressante pour moi, c'est que j'en ai d'autres qui sont en gestation. Par exemple, ce que j'avais dit sur l'atlas de Mahmoud Raïf Efendi en 1803, cet atlas parfait, mais dont une particularité me paraissait tout à fait irrationnelle, le fait qu'il avait traduit toute la toponymie du nouveau continent, de l'Amérique, c'est-à-dire que pour Cape Fear, il avait utilisé Corcubourne, traduisant en quelque sorte littéralement les noms de lieux, la toponymie sur la carte, j'en avais déduit que c'était un usage, un excès de zèle qui prouvait qu'il voulait accéder à cette connaissance, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Puisque, encore une fois, mon argument est qu'un atlas, c'est quelque chose qui sert à bouger, à naviguer. Et par conséquent, vous n'avez aucune chance de naviguer sur la côte américaine en demandant aux indigènes où se trouve Corcubourne. Ça n'a pas de sens. Les Occidentaux ne le font pas lorsqu'ils publient des cartes de l'Empire ottoman. Ils peuvent se référer à une toponymie antiquisante, ça bien sûr, et il y a une raison idéologique pour ça, mais sinon, ils ne vont pas s'amuser à traduire le Baba Bourneau en Cap Père. Ils diront Cap Baba, parce que ça a un sens, parce qu'il faut communiquer. Une carte qui ne communique pas, une carte qui n'a pas d'ancrage dans la langue, la culture du pays, de la région, de la géographie décrite, n'a pas vraiment d'utilité. Ça devient un exercice futile. Et à la même époque, je vous avais donné l'exemple de Jahabi Omer Efendi, chroniqueur, qui, lui, ne savait même pas que l'Amérique existait. Et qui, par conséquent, vous donnait une histoire, une sorte de légende que l'on arrivait à identifier comme le voyage des pèlerins de 1622, etc. Donc, toute la mythologie fondatrice de l'Amérique, mais tout ça sous le nom mystérieux de Malikan, qui, en aucune langue, ne correspond à rien, et par conséquent, qui révélait le fait que un chroniqueur, donc pas le dernier venu, quelqu'un d'une certaine culture, à Istanbul même, avait ce trou de connaissances énorme qui était l'ignorance de l'existence même du continent américain. Et ce qui est intéressant, c'est de les mettre côte à côte. C'est-à-dire de voir que, d'un côté, vous avez un intellectuel épris de modernité qui s'engage dans cette mission auto-civilisatrice qui est la traduction des sources techniques, technologiques, militaires, médicales, etc. de l'Occident, afin de servir cette nouvelle mission qu'ont les Ottomans de développer leur connaissance des sciences et du monde. Donc, d'une part, vous avez ce type-là qui vous fait une carte parfaitement inutile. Et de l'autre, vous avez un autre type qui, lui, vous écrit une histoire ottomane, une tarikh, dans la bonne tradition de la profession, et qui fait preuve d'une ignorance totale au sujet de quelque chose d'aussi gros que l'Amérique. Comment combiner les deux ? Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore rédigé, mais grâce à la discussion que j'ai partagée avec vous, c'est un projet que j'ai en tête d'un article que je vais essayer de terminer jusqu'en mars, pour essayer de voir comment ces deux exemples peuvent être utilisés pour parler, pour revisiter une période que l'on associe un peu trop facilement avec une sorte de trajectoire linéaire, rectiligne. Voilà, on traduit de plus en plus, on s'intéresse de plus en plus, c'est vrai, mais ça n'est pas vrai aussi. Comment gérer ça ? Et encore une fois, je n'aurai pas de réponse, je ne dirai pas, je ne pourrai pas dire que Mahmoud Raïf Efendi représente la modernisation ou les premiers pas des Ottomans vers une certaine occidentalisation. Je ne pourrais pas dire non plus que Jahabi Omer Efendi représente une ignorance crasse qui caractérise le système ottoman à cette époque-là. C'est les deux. Et c'est ni l'un ni l'autre. C'est la combinaison, c'est la coexistence. Et c'est là que ça devient des strates, en quelque sorte, de complexité, qui ne peuvent être réduites à de simples connaissances. Évidemment, c'est vrai pour toutes les histoires. Mais encore une fois, je vous rappellerai que quand on parle des Lumières, Vous avez des historiens, et j'ai évoqué Robert Darnton, qui est un excellent historien des Lumières, vous avez des historiens qui sont penchés autant sur les textes, les grands textes de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, les monuments, si vous voulez, de ce que l'on associe avec les Lumières, mais qui se sont penchés aussi sur la réalité de la circulation des idées, en y incluant, grâce à des archives d'une richesse extraordinaire, notamment les archives de la Société typographique de Neuchâtel, qui y ont intégré toute une littérature secondaire, même tertiaire, d'un niveau, mais qui circulait beaucoup plus, qui était beaucoup plus vendue que Voltaire, et qui finissait par disséminer au sein de la population de l'Ancien Régime les idées de Voltaire, même si elles étaient dénaturées par le biais de la pornographie ou de la science-fiction, mais ça faisait partie justement de quelque chose que l'on arrive à comprendre puisqu'on arrive à le quantifier. Il ne faut pas se faire d'illusions, on ne peut pas bâtir l'histoire sur ce que l'on appelle le picorage. Le picorage, c'est-à-dire le choix de tel ou tel élément, tel ou tel événement, telle ou telle source, tel ou tel acteur qui serait significatif. Évidemment, tous sont significatifs, mais sont-ils représentatifs ? Sont-ils vraiment, font-ils partie de la majorité, d'une minorité, d'une tendance, d'une autre? C'est ça qu'il faut essayer d'explorer. Et malheureusement, s'il est vrai que en histoire occidentale, on a fait des progrès énormes depuis notamment les années 50-60, en histoire ottomane, on en est encore à des balbutiements dans ces cas-là. Et c'est ce qui m'intéresse. Par conséquent, plus que de faire de la synthèse, c'est de déconstruire, c'est de voir un peu, de secouer le cocotier, essayer de voir ce qui en tombe. Et essayer de voir si l'on arrive à placer ces événements dans des tendances, des trends, comme on dit en anglais, qui pourraient nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans une société extrêmement complexe, extrêmement variée, et encore une fois, une société dont la plus importante caractéristique est qu'elle ne peut pas être réduite à une ethnie, une religion, une nation. C'est là le poids du nationalisme turc qui veut turquifier toute l'histoire ottomane, qu'il faut absolument évacuer afin de comprendre la complexité d'un empire. Je l'ai toujours dit, l'État-nation est d'une simplicité qui n'arrive pas à comprendre la complexité de l'empire. Et un empire, c'est très compliqué à comprendre. C'est quelque chose qui est multiple, qui est pluriel, pas pluraliste, mais pluriel. Et par conséquent, nous n'avons même pas vu le début d'une compréhension de cette complexité. Et ceci est encore plus grevé par le fait que nous nous penchons généralement sur des sources qui sont soit occidentales et externes, ou musulmanes, entre guillemets, turques, et nous passons à côté de tout un monde qui est fait de Grecs, d'Arméniens, de Juifs et d'autres ethnies et d'autres cultures et d'autres religions dont la représentation textuelle est malheureusement infime comparée aux deux premiers. Donc le travail, c'est d'essayer d'exploser en quelque sorte, d'imploser l'empire pour essayer d'en examiner tous les recoins, toutes les complexités, toutes les complications.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Etem Aldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » dans les années 1820-1830, aujourd'hui, reprise et rappel. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Etem Aldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villose de la Discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Collaboratrice, Claude Lanneau. Demain, Etem Eldem interrogera les défis du nouvel ordre européen et les violentes réformes dans l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.